1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça va?
Bah ouais, ça va bien.
Bon.
C'est la dernière fois avec Andy?
Ouais, en tous les cas pour ce mois-ci. Mm. Mais on pourra en reparler à l'occasion, hein, si ça te dit. Hein.
Bah ouais, pourquoi
ouais.
pas.
Bon. Ouais, quatrième et dernière.
Alors tu l'as appelée comment celle-là?
Celle-ci, je l'ai appelée sa philosophie de A à Warhol.
Ouais, bon, ok.
Ouais, parce qu'il a un, il a un bouquin qui s'appelle ma philosophie de A à B. Donc, c'était une forme de, tu vois, de renvoi à ses écrits, puisque, comme on l'a évoqué la dernière fois, il a tenu un journal, il a écrit quelques bouquins qui ont été publiés, et c'est tout sauf inintéressant.
Mais j'imagine, ouais. C'est quoi comme type de bouquin?
Des journaux, beaucoup de journaux, des recueils de citations, des publications d'interviews, parce que c'était quand même quelqu'un qui faisait très très attention à son image. Il y a notamment un bouquin aussi qui est assez passionnant avec William Burroughs, cet artiste de la Beat Generation, parce qu'ils se sont rencontrés, croisés, appréciés, je pense aussi. Et voilà, des retranscriptions de dîners ensemble. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est dit à ces dîners-là, ou est-ce que ça a été arrangé on ne sait pas trop, mais c'est assez étonnant.
Ouais,
à lire.
J'imagine quoi, les conversations entre William Burroughs et Andy Warhol. Waouh!
Alors, je crois que j'avais fait une citation lors de la première émission, mais j'en avais un certain nombre d'autres. Il a dit des trucs du genre « Il doit être difficile d'être un mannequin, car on doit avoir envie d'être comme la photo de soi, et on ne peut jamais y ressembler. Et l'on commence donc à copier la photo.
» Moi, j'aime beaucoup.
Ouais. c'est profond en même temps.
Ouais.
Sous des airs anodins comme ça.
Et ça en dit tellement long sur la société d'aujourd'hui.
Voilà. Donc c'est le genre de perle dont il était capable, quoi. En quelques phrases, clac, comme dans ses portraits, il est capable de synthétiser quelque chose qui est, et comme tu le dis, qui est tellement qui en dit tellement long sur une certaine société dans laquelle on évolue encore, c'est particulièrement d'actualité.
Bon, ça c'était le côté vraiment sage taoïste, mais la dernière fois tu nous avais parlé de crétinerie notoire. T'as des exemples?
Un échange avec Régine, notre Régine nationale.
Il a même rencontré Régine. Quel mec.
Régine, pourquoi ça t'amuse la vie mondaine? Andy Warhol. C'est comme aller à l'église, comme la messe, c'est un spectacle, sauf que ça se passe plutôt le soir que le matin.
C'est pas crétin.
Non, mais je vais avoir du mal à trouver quelque chose qui soit purement crétin chez lui. Donc c'est toujours à double tranchant. Voilà. Donc c'est une sorte de philosophe.
Oui, je trouve.
Allez, on écoute un son à propos.
Les gens laissent parfois un même problème faire leur malheur pendant des années, alors qu'ils pourraient simplement dire « et alors ?». C'est une de mes phrases préférées. « Et alors ?». Ma mère ne m'a pas aimé. « Et alors ?». Mon mari ne veut pas me baiser. « Et alors ?». Je réussis, mais je suis toujours seul. « Et alors ?». Je me demande comment j'ai pu survivre toutes ces années avant de trouver le truc. J'ai mis longtemps à l'apprendre, mais une fois qu'on l'a trouvé, on ne l'oublie plus jamais.
Son art est évidemment basé sur une forme d'impersonnalité. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, dans son art, cherche la désubjectivisation. Voilà. Il en éprouve des émotions, mais ça ne doit pas apparaître. Mais en fait, il est quand même très sensible. Donc cette sensibilité apparaît dans son art. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, de façon très singulière, ne porte pas de jugement, ni ne condamne, ni élit. Alors parfois, il a l'air d'élire des choses. Il dit que la consommation, c'est formidable, ou que acheter, c'est magnifique.
Oui, il dit
shopping. Souvent
ce qu'il aime. Il dit plus ce qu'il aime que ce qu'il n'aime pas.
Mais ils disent qu'il aime, mais en fait, pour j'ai l'impression contrarier une certaine intelligentsia, en fait. Parce qu'il a toujours dit que pop était positif, affirmatif, et que donc cet optimisme du pop porté par les valeurs de la consommation et du capitalisme, il a l'air d'y adhérer. Mais en fait, c'est pas si simple, parce que en fait, il ne veut pas prendre parti pour quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il a fait des déclarations que je trouve extrêmement intéressantes et qu'on ne relève jamais, c'est qu'il a fait des déclarations assez dures, finalement, contre la société de consommation, où il a montré qu'elle était quand même équivalente à une forme de totalitarisme. Et ça, on l'oublie toujours, en fait. On garde que le côté « je mâche du chewing-gum » en disant « yeah, yeah, c'est formidable ». Bon, ça, c'est quelque chose de très réducteur. Mais en fait, je pense que sa force est de ne pas vouloir prendre parti pour une chose ou pour une autre. Il est tout le contraire des artistes contemporains d'aujourd'hui qui sont des sortes de propagandistes ou d'activistes politiques et qui se servent de l'art pour les faire passer des messages soi-disant, ou en tout cas pour lesquels c'est un alibi formidable. Vous allez maintenant aujourd'hui dans n'importe quelle biennale d'art contemporain, presque tous les artistes ont un message à faire passer. Et d'ailleurs, l'art contemporain ne repose que sur les messages qu'il fait passer, car si vous n'avez pas le décodeur de la gestuelle ou de l'installation, en général, vous passez à côté de la chose. Donc il est le contraire de ça, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire passer, de message.
Mais son absence de jugement, son impassibilité, elle lui a été reprochée, notamment par Suzanne Sontag, qui lui reprochait de ne pas prendre parti.
Donc oui, on lui reproche. Mais bon, en même temps, ça ne l'a pas empêché de faire des choses plus complexes, y compris, par exemple, quand ses dernières œuvres, si on prend ses dernières œuvres, ça c'est très intéressant, parce que là, il superpose deux choses. Il reprend la scène de Léonard de Vinci.
En 1986.
Voilà, dans Le plus grand secret, il travaille dans son atelier sur la scène de Léonard de Vinci. Et dans la série d'innombrables déclinaisons de cette œuvre, parce que elle est reproduite en plusieurs fois, ou parfois il se focalise sur un motif de la scène, et parfois il rajoute des logos commerciaux ou des étiquettes de prix sur la scène. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit en fait que tout message, d'une certaine façon, on peut l'interpréter comme ça. Je dis pas qu'il dit ça, mais moi je dis qu'on peut l'interpréter comme tout message spirituel sera dorénavant court-circuité et parasité par la marchandise. Tout va se résorber dans une sorte de culturel, parce qu'il a fait des prophéties très justes en même temps. Ce type qui prend pas parti et qui a l'air d'être un crétin et qui instrumentalise sa crétinerie de façon stratégique dit quand même que tout va devenir de la décoration culturelle, que tout va devenir une sorte de mode, tout va devenir à la mode, tout sera toujours à la mode, que l'an 2000 finalement ça changera pas grand chose et que on visitera des grands magasins comme les musées, que toutes les... Et en fait, il dit exactement ce que dit un architecte contemporain d'aujourd'hui, qui est Rem Koolhaas, à savoir que toute la planète est devenue une aire de shopping, d'une certaine façon. Donc il fait des prophéties qui sont assez justes.
Prophète, donc on l'avait déjà évoqué. Prophète, oui, de la société dans laquelle il vivait et dans la société dans laquelle on vit encore, même si...
On est englué aujourd'hui.
Ouais, même si peut-être que quelque chose d'autre émerge, mais c'est pas encore extrêmement visible. Mais oui, il est prophétique de notre société. Une citation sur Lao Tzu.
Allez, vas-y.
Parce que comme on l'écoute dans le son, c'est vrai qu'à un moment on parle, il porte pas de jugement, il prend pas vraiment position, et en même temps il est pas dans une position réellement de neutralité non plus. J'ai l'impression qu'il invente une sorte de troisième voie, et du coup ça me fait penser à Lao Tzu, ce sage taoïste dont il parle, et il en dit ceci. Lao Tzu fut souvent par certains textes assimilé au Tao lui-même, comme s'il avait fini par se fondre en lui. Le sage taoïste sait retenir son rayonnement et rendre son corps invisible. Qui n'a pas de forme peut les prendre toutes. C'est puissant ça aussi.
Ouais.
à méditer, donc ça te laisse sans voix. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué de ça mérite vraiment une réflexion, c'est profond. Et c'est, je trouve que, pareil, ça en dit long sur lui, parce que cet effacement qu'il a derrière ce look, cette personnalité perruquée, fardée à la fin de sa vie, c'est Warhol, mais en même temps, qui est-il véritablement? Ça reste énigmatique.
Ça reste énigmatique, ouais. Non, ça résonne, ouais, cette histoire de rayonnement qui rend invisible. Ça rappelle des choses que j'ai expérimentées en théâtre, etc. Ouais. Ou comment on se rend visible en faisant en sorte que ton énergie, elle n'aille pas éclabousser. Et ouais. Qu'au contraire, tu la retiennes. Ouais. Et en fait, les gens ne te voient plus. Voilà. Et c'est vrai que du coup... Ouais, tu peux te donner toutes les formes en travaillant sur ton énergie et ton rayonnement. C'est intéressant.
Allez, prochain son, on écoute.
Il est difficile pour tout le monde d'imaginer qu'un artiste aussi futile d'apparence ait travaillé à une vision philosophique du monde. Sur une base très sérieuse, avec toute la conscience dont il était doué et dont il était capable, avec un profond sérieux. Donc le contraste est sans doute quelque peu déstabilisant. Mais les éléments du dossier que l'on peut produire, les témoignages de ses proches, de John Richardson, des uns et des autres, de son assistant René Cutrone, qui dit cette chose fantastique, qui dit quand un artiste croit en Dieu, ça rabaisse immédiatement son ego, et c'est fondamentalement vrai. Donc tous ces témoignages, tous ces oraux écrits, le témoignage des œuvres elles-mêmes, etc., des évidences absolues, que nul ne peut, d'un point de vue historiographique, personne ne peut contester, mais dont tout le monde conteste la mise en perspective. Et ça, c'est quelque chose alors, que je trouve en soi-même très intéressant. C'est-à-dire, comment expliquer l'incuriosité ou le malaise provoqué par cette contradiction majeure entre un homme qui vit sa vie de tous les jours, et c'est une vie, oui, c'est une vie mondaine, c'est une vie exubérante, c'est une vie marquée par l'argent, par le commerce, par l'échange, etc., mais qui se retire chez lui, pour reprendre les mots de John Richardson, dans son presbytère, Que fait-il dans son presbytère? Que fait-on dans un presbytère sinon prier?
Ah, yes. Ah, no. Ah, well, I hadn't thought about it.
Cool, mais il avait beaucoup de boutons, de l'acné juvénile à 40 ans comme à 13 ans. Andy Warhol était par jour, il mangeait comme un moineau. Oui, surtout si c'était lui qui payait l'addition. Andy Warhol était Miro, la preuve, il portait des lunettes. Pas un type sur le caillou, la preuve, il portait une perruque. Il est d'une telle arrogance que par un coup de malchance, Valérie Solanas lui balance des balles dans les côtes, la maman d'Andy pleure, personne n'y comprend rien. Sa poitrine de poitrineur, il s'agit d'un quiproquo malentendu, quelle rancunière. Andy Warhol disait l'essentiel c'est d'être dans le journal. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est complètement égal.
social, c'est de ne jamais souffrir. Mais à l'hôpital, ouh, il avait vraiment mal. Il est d'une telle arrogance que par un coup de malchance, Valérie Solanas lui balance des balles dans les côtes, des balles dans les côtes. La maman d'Andy pleure, personne n'y comprend rien. Sa poitrine de poitrineur, il s'agit d'un quiproquo malentendu, quelle rancunière. Andy Warhol. Quand on est artiste humoristique, la pire tragédie, c'est quand d'autres pathétiques soudain vous prennent au sérieux.
Exactement tout ce que je ne pense pas d'Andy Warhol, mais je trouvais que ça valait le coup.
Ah ouais, moi je trouve ça, ça vaut vraiment le coup, moi j'adore ça. Et c'est quoi alors?
Ça s'appelle, c'est un groupe qui s'appelle Stéréo Total et le titre c'est Andy Warhol. C'est leur vision d'Andy Warhol.
Ça donne envie en tout cas d'aller creuser leur œuvre,
oui,
je trouve.
Ouais.
Peut-être
ouais.
Pas pour écouter un album entier, mais.
Ah, mais comme pause musicale, quoi, c'est parfait. Surtout c'est en contrepoint de. Voilà, on voit Andy Warhol rentrer chez lui et se faire qualifier d'ermite par Alain Cuèche. Je trouvais que c'était bien de ponctuer ça différemment.
T'as raison, tout est dans le contraste.
Voilà. Bah, ça illustre le personnage aussi. Hein. Voilà. alors, puisque c'est une émission quand même plutôt grave, malgré la pause musicale sur Andy Warhol, philosophe, ermite. À la fin de sa vie, il a fait donc la scène qu'on a déjà évoquée, une relecture des relectures de la scène de Léonard de Vinci. Mais il a aussi fait...
Je crois qu'il avait nagé dans la scène, c'était fait la scène. Mais non, c'est pas ça.
Non, c'est l'autre scène, The Last Supper, comme on dit en anglais. il a fait des crânes aussi et des autoportraits en forme de crâne. On écoute.
Quand on demande à Andy Warhol pourquoi il a peint des marteaux et des faucilles, pourquoi il a peint des crânes, il répond: j'ai peint les marteaux et les faucilles pour le communisme et les crânes pour le fascisme. C'est évidemment une boutade hein, de sa part. Quand on observe cette série de quatre tableaux, on voit très distinctement sur la gauche du crâne l'ombre portée qui dessine le profil d'un nouveau-né. Au sein d'une vanité d'arriver à incruster une idée de naissance, de renaissance, afin de montrer le cycle éternel de la vie et de la mort, me semble d'une naïveté absolument bouleversante. Et je dis naïveté, alors qu'en réalité, Warhol savait avoir un usage très précis, justement, de la naïveté. Le résultat, quoi qu'il en soit, est une des images les plus bouleversantes de son œuvre. Elle est aussi une des plus synthétiques quant à sa vision de l'humanité.
Alors, est-ce que tu connaissais ces œuvres? C'est des œuvres de fin de vie aussi.
Non, celles-là, je ne les connaissais pas.
Pareil, elles sont pas visibles très 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 facilement. C'est pas forcément les œuvres les plus exposées de Warhol. Mais je trouve que c'est intéressant effectivement de quand il parle de fausse naïveté. C'est vrai que ça peut paraître une image assez naïve et simple, mais à la fin de sa vie peindre ça, pareil, ça, je trouve ça assez fort.
Ouais, et puis fort et surprenant, parce que c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a de de Andy Warhol, voilà l'image d'un grand mondain un peu arrogant en effet, et d'une certaine j'allais dire futilité, oui, c'est vrai.
Oui, il est souvent, enfin, c'est un terme qui est souvent utilisé pour le qualifier. Hein.
Ou en tout cas d'une certaine gaieté, tu vois, de par ses choix, ses portraits, ses tableaux, oui, ses couleurs. Oui. Mmh. Voilà, il y a quelque chose d'assez joyeux, quelque
part. Tout à fait, ouais. Futilité, légèreté, oui, c'est des mots qu'on peut lui, avec lesquels on peut le qualifier. Et au-delà de ça, pareil, c'est là où c'est intéressant de rentrer un peu dans son œuvre, parce qu'on s'aperçoit que la forme que prend son travail, effectivement, elle peut paraître futile, légère, voire anecdotique, mais ses sources d'inspiration, elles sont beaucoup plus graves, en fait. À la fin de sa vie, mais pas seulement. Hein. On a évoqué lors d'une émission
les chaises électriques,
les accidents. Donc il y a vraiment une part morbide et glauque dans son travail, qui est complètement gommée effectivement par la forme que ça prend, ses couleurs pop éclatantes, mais les thématiques sont...
Ben, je dirais pas que c'est si gommé que ça. Au contraire, je trouve que... C'est ce que je disais sur les electric chairs, les chaises électriques, ça renforce, ça rend la violence de l'objet.
Mais ça veut dire que tu as déjà un regard plus... ton regard s'est arrêté, tu as un regard plus acéré sur son travail. Il y a des gens, effectivement, qui ne voient même pas forcément ça. Alors que c'est évident hein, qu'effectivement, ça renforce le côté dérangeant, bien entendu. Je suis d'accord.
Et tu vois, c'est un peu ça qu'on reprochait à l'expo qu'on a vu à Barcelone,
ouais.
Au CCCB, c'est que on pouvait partir de cette expo en ayant vu que le côté justement superficiel, ouais, gay, joyeux, et on va voir le portrait de Marilyn et de Liz Taylor. Et qu'il y avait pas, c'était pas suffisamment didactique,
ouais,
justement, pour qu'on puisse se rendre compte que c'était un peu plus profond que ça.
Et c'est typiquement un artiste avec lequel effectivement il doit y avoir cette dimension explicative et didactique, parce que sinon effectivement on passe à côté.
Ouais, c'est clair.
Allez. Finalement, qu'est-ce qui reste de Andy Warhol aujourd'hui? On va pas répondre à la question, mais je vous propose un son quand même à ce sujet.
L'individu des années 2000-2010, le modèle de société de ces années-là, en quoi ils étaient annoncés par Andy Warhol, Cécile Gilbert?
Annoncé, je ne sais pas, mais en tout cas, il était déjà à l'œuvre, sauf qu'il s'est durci, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas changé, à mon avis, quantitativement, il a changé qualitativement. C'est-à-dire que quand Warhol dit en 60 « je me suis marié avec mon téléviseur » et qu'il sortait pas sans un appareil photo ou un appareil enregistreur, il est exactement comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne sortons pas sans nos prothèses électroniques, nos téléphones portables, nos smartphones, qui permettent évidemment d'enregistrer, de photographier, de converser. Il aurait adoré, évidemment, il aurait adoré tout ça, mais d'une certaine façon, il avait déjà vécu. Donc, qu'est-ce qui se serait fasciné pour les webcams, Internet Ben forcément, mais en même temps, on a l'impression qu'il a déjà fait ça avant. C'est comme la télé-réalité. Oui, ça l'aurait fasciné, la télé-réalité, puisqu'il était, il avait sa télé en permanence qui tournait chez lui. Du moins, c'est ce qu'il disait. Et par provocation, il disait « je ne zappe pas les publicités, je zappe les émissions ».
Et qu'il avait promis 15 minutes de célébrité
voilà,
à tout le monde.
Donc, toutes ces prothèses techniques qui sont liées à l'invention du numérique l'auraient fasciné. Mais d'une certaine façon, je pense qu'il était déjà dedans. Donc ça aurait parfait le circuit, si vous voulez, le bouclage aurait été parfait, mais ce qui se serait pas ennuyé, je pense que d'une certaine façon, oui. Alors oui, il a annoncé... qu'est-ce qu'il a annoncé? Oui, il a annoncé d'une certaine façon la consommation du sexe virtuel, puisqu'il a dit après tout, la vidéo va servir beaucoup à la pornographie. Je pense que c'était vrai. Donc il a annoncé ça, la pornographie virtuelle, la virtualité des contacts. Et il avait dit même une chose fascinante, c'est qu'on n'aurait plus besoin de son corps, sauf pour aller dans des fêtes, mais que pour tout le reste, on pouvait se passer de son corps, on pouvait donner son sperme pour faire des enfants, ce qui est évidemment le cas. On pouvait lâcher des bombes de loin, sans être trop en contact avec les têtes de guerre. Enfin bon, il a fait toute une série de prophéties qui sont avérées. Il avait donc prophétisé évidemment le raisonnement des corps par les machines. La télé-réalité, même d'une certaine façon, parce que finalement, on peut imaginer que laisser tourner sa caméra dans la factory, c'est un peu le loft, hein, d'une certaine façon, l'hippodrome du loft. Donc, oui, tout ça a été prophétisé. Mais je pense que sur le plan le plus générique, en fait, il a prophétisé, et ça s'est accompli de façon magistrale, hélas ou pas, on jugera qui veut, la dissolution de l'art dans le tout culturel.
La quoi, la dissolution de quoi ?
La dissolution de l'art dans le tout culturel.
Ouais.
Mais je ne sais même pas si c'est... C'est même pas suffisant pour moi. Moi, j'aurais parlé de dissolution de la société dans le tout marchandise. Ça, c'est à l'œuvre dans son travail. C'est évident.
C'est la base.
Ouais.
Non
ouais. Okay. Ouais. 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 Après, est-ce qu'il est prophète ? Je sais pas. Je pense qu'il a surtout un regard extrêmement acéré. Et effectivement, il détecte ça parce que c'est déjà à l'œuvre dans les années 60, 70 et 80.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, plutôt, parler de prophète, c'est trop.
Oui, c'est trop. Oui, c'est trop fort.
Quelqu'un qui sait. Ouais. Sentir ce qui se passe dans son époque, oui, parfaitement bien, ouais, et qu'en fait l'époque dans laquelle on vit, c'est l'exacerbation de tout ça.
Ouais, je crois.
Parce que, ouais, c'est donner toujours, parler de prophétie, c'est toujours donner un côté un peu mystique à quelque chose qu'il n'est pas.
Mystique, non. Il y a une dimension religieuse dans son travail, je pense pas. Enfin, en tous les cas, c'est pas forcément. Il n'a jamais donné à voir ça, effectivement. Mais en tous les cas. Oui, quelqu'un qui sent l'époque et qui est capable d'en retranscrire l'essence. Oui, ça, pour moi, c'est évident. Je savais pas comment conclure. Et finalement, j'ai eu envie de donner la parole à une autre artiste.
Oui, fais attention aux féministes radicales, hein, tu te trompes pas.
Donc... Et c'est Patti Smith que j'ai invité pour conclure à ma place. Alors c'est en anglais, mais je vous propose qu'on l'écoute. Alors c'est une interview qu'elle a donnée récemment, il y a deux ou trois ans. Elle est en train de faire des récits autobiographiques. Il y en a un qui s'appelle Just Kids, qui est assez passionnant à lire, où elle relate son arrivée à New York et son compagnonnage avec Robert Mapplethorpe, le fameux photographe. Qui a été un des proches de Warhol. Et du coup, dans son livre, elle évoque Andy Warhol. Je vous propose qu'on écoute et on en reparle quelques minutes après.
I noticed that you wrote about Andy Warhol saying you felt little for the can and didn't like the soup. That you preferred an artist not mirroring the world but transforming it.
Yes, well, when I was young, I truthfully didn't have an affection for Andy Warhol. As a human being, I thought that he was not a very generous or kind person. His work really didn't speak to me. Robert loved Andy Warhol, though, and Robert believed he was a genius, and so I didn't dismiss him because I knew Robert knew things. You know, I trusted in Robert's instinct. And, but when I was young, his work just didn't speak to me. At this time in my life, I found, I've really gotten to appreciate what a genius he was. I find if I'm in a museum and looking at contemporary art, I'm not so drawn to contemporary art, and I'll suddenly see something across a room and I think, that's strong, and I go over and it's Andy's. And the last works he did, or some of the last works he did before he died, his Last Supper body of work, I thought was genius, was quite moving.
But what I think is important in the quotation about an artist either mirroring or transforming, yes. I think what you do is you are transforming instead of mirroring what you see. It's two different conceptions of how to be an artist.
Well, I feel more drawn to the transformative in art itself. I'm not so drawn to nonfiction. And, but, you know, I also appreciate more and more someone that has the ability to mirror our times. I think that it's important that people do that. It's just I'm not really that style of person. I learned this lesson when September 11th happened. Where I live in New York City, I could see the towers from my stoop, and I watched them come down. And then I went, you know, I didn't live far from there, so I went and looked at the remains of one of the towers, the South Tower. And it was an extraordinary, it was like a piece of sculpture. It looked like the Tower of Babel. And I started thinking a lot about Andy then. I really missed Andy as an artist then, because he would have known what to do as an artist, not to transform, but to document this extraordinary thing that happened. So even though I'm not that style of artist, I recognize the importance of that type of artist. But when I was young, I was really judgmental.
Tu comprends pourquoi j'ai voulu finir là-dessus?
Bah ouais, quand même, un petit peu.
Mm-hmm. Je trouve que c'est... Bon, alors, elle est poète aussi, Patti Smith. Et je trouve que ce qu'elle dit à la fin, là, sur, quand elle se retrouve face aux ruines des tours, elle pense à Andy Warhol. Et à ce moment-là, elle se rend compte que finalement, il n'y aura peut-être personne à la hauteur, un artiste à la hauteur pour témoigner de ça. Et je trouve ça génial. Je trouve que ça, effectivement, finalement, ça en dit long sur quel artiste il était et pourquoi éventuellement, aujourd'hui, il est irremplaçable. Non ?
Oui, tout à fait d'accord.
On conclut là-dessus ?
On conclut là-dessus.
Enfin, provisoirement. On reparlera d'Andy Warhol. Allez, ciao, à bientôt.